Le capital sans les notes, section 3, chapitre grand 8. Capital constant et capital variable. Les différents facteurs du procès de travail prennent une part différente à la formation de la valeur des produits. L'ouvrier communique une valeur nouvelle à l'objet du travail par l'addition d'une nouvelle dose de travail, quel qu'en soit le caractère utile. D'autre part, nous retrouvons les valeurs des moyens de production consommés comme éléments dans la valeur du produit. Par exemple, la valeur du coton et des broches dans celle des filets. Les valeurs des moyens de production sont donc conservées par leur transmission au produit. Cette transmission a lieu dans le cours du travail, pendant la transformation des moyens de production en produits. Le travail en est donc l'intermédiaire. Mais de quelle manière? L'ouvrier ne travaille pas doublement dans le même temps, une fois pour ajouter une nouvelle valeur au coton, et l'autre fois pour en conserver l'ancienne, ou ce qui revient absolument au même pour transmettre au produit, au filet, la valeur des broches qu'il use et celle du coton qu'il façonne. C'est par la simple addition d'une nouvelle valeur qu'il maintient l'ancienne. Mais comme l'addition d'une valeur nouvelle à l'objet du travail et la conservation des valeurs anciennes dans le produit sont deux résultats tout à fait différents, que l'ouvrier obtient dans le même temps, ce double effet ne peut évidemment résulter que du caractère double de son travail. Ce travail doit, dans le même moment, en vertu d'une propriété créée et en vertu d'une autre propriété, conserver ou transmettre de la valeur. Comment l'ouvrier ajoute-t-il du travail et par conséquent, de la valeur. N'est-ce pas sous la forme d'un travail utile et particulier, et seulement sous cette forme? Le fileur n'ajoute de travail qu'en filant, le tisserand qu'en tissant, le forgeron qu'en forgeant. Mais c'est précisément cette forme de tissage, de filage, etc., en un mot la forme productive spéciale dans laquelle la force de travail est dépensée, qui convertit les moyens de production tels que coton et broche, fil et métier à tisser, fer et enclume, en éléments formateurs d'un produit, d'une nouvelle valeur d'usage. L'ancienne forme de leur valeur d'usage ne disparaît que pour revêtir une forme nouvelle. Or, nous avons vu que le temps de travail qu'il faut pour produire un article comprend aussi le temps de travail qu'il faut pour produire les articles consommés dans l'acte de sa production. En d'autres termes, le temps de travail nécessaire pour faire les moyens de production consommés compte dans le produit nouveau. Le travailleur conserve donc la valeur des moyens de production consommés. Il la transmet au produit comme partie constituante de sa valeur, non parce qu'il ajoute du travail en général, mais par le caractère utile, par la forme productive de ce travail additionnel. En tant qu'il est utile, qu'il est activité productive, le travail, par son simple contact avec les moyens de production, les ressuscite des morts, en fait des facteurs de son propre mouvement et s'unit avec eux pour constituer des produits. Si le travail productif spécifique de l'ouvrier n'était pas le filage, il ne ferait pas de filet et, par conséquent, ne leur transmettrait pas les valeurs du coton et des broches. Mais, par une journée de travail, le même ouvrier, s'il change de métier et devient par exemple menuisier, ajoutera, après comme avant, de la valeur à des matières. Il ajoute donc par son travail, considéré non comme travail de tisserand ou de menuisier, mais comme travail humain en général. Et il ajoute une quantité déterminée de valeur, non parce que son travail a un caractère utile particulier, mais parce qu'il dure un certain temps. C'est donc en vertu de sa propriété générale, abstraite, comme dépense de force vitale humaine, que le travail du fileur ajoute une valeur nouvelle aux valeurs du coton et des broches, et c'est en vertu de sa propriété concrète, particulière, de sa propriété utile comme filage, qu'il transmet la valeur de ses moyens de production au produit et la conserve ainsi dans celui-ci. De là, le double caractère de son résultat dans le même espace de temps. Par une simple addition, par une quantité nouvelle de travail, une nouvelle valeur est ajoutée. Par la qualité du travail ajouté, les anciennes valeurs des moyens de production sont conservées dans le produit. Ce double effet du même travail, par suite de son double caractère, devient saisissable dans une multitude de phénomènes. Supposez qu'une invention quelconque permette à l'ouvrier de filer en 6 heures autant de coton qu'il en filait auparavant en 36. Comme activité utile, productive, la puissance de son travail a sextuplé et son produit est 6 fois plus grand, 36 livres de filet au lieu de 6. Mais les 36 livres de coton n'absorbent pas plus de temps de travail que n'en absorbaient 6 dans le premier cas. Il leur est ajouté seulement un sixième du travail qu'aurait exigé l'ancienne méthode, et par conséquent, un sixième seulement de nouvelles valeurs. D'autre part, la valeur sextuple de coton existe maintenant dans le produit, les 36 livres de filet. Dans les 6 heures de filage, une valeur 6 fois plus grande en matière première est conservée et transmise au produit, bien que la valeur nouvelle ajoutée à cette même matière soit 6 fois plus petite. Ceci montre comment la propriété en vertu de laquelle le travail conserve de la valeur est essentiellement différente de la propriété en vertu de laquelle, durant le même acte, il crée de la valeur. Plus il se transmet pendant le filage de travail nécessaire à la même quantité de coton, plus grande est la valeur nouvelle ajoutée à celui-ci. Mais plus il se file de livres de coton dans un même temps de travail, plus grande est la valeur ancienne qui est conservée dans le produit. Admettons au contraire que la productivité du travail reste constante, qu'il faut par conséquent au fileur toujours le même temps pour transformer une livre de coton en filet, mais que la valeur d'échange du coton varie et qu'une livre de coton vaille 6 fois plus ou moins qu'auparavant. Dans les deux cas, le fileur continue à ajouter le même quantum de travail à la même quantité de coton, c'est-à-dire la même valeur. Et dans les deux cas, il produit dans le même temps la même quantité de filet. Cependant, la valeur qu'il transmet du coton au filet, au produit, est dans un cas 6 fois plus petite, et dans l'autre cas, 6 fois plus grande qu'auparavant. Il en est de même quand les instruments de travail renchérissent ou se vendent à meilleur marché, mais rendent cependant toujours le même service. Si les conditions techniques du filage restent les mêmes et que ses moyens de production n'éprouvent aucun changement de valeur, le fileur continue à consommer dans des temps de travail donnés, des quantités données de matières premières et de machines, dont la valeur reste conséquemment toujours la même. La valeur qu'il conserve dans le produit est alors en raison directe de la valeur nouvelle qu'il ajoute. En 2 semaines, il ajoute 2 fois plus de travail qu'en 1, 2 fois plus de valeur donc, et en même temps, il use 2 fois plus de matière et 2 fois plus de machines. Il conserve ainsi dans le produit de 2 semaines 2 fois plus de valeur que dans le produit d'une seule. Dans des conditions invariables, l'ouvrier conserve d'autant plus de valeur qu'il en ajoute davantage. Cependant, il ne conserve pas plus de valeur parce qu'il en ajoute davantage, mais parce qu'il l'ajoute dans des circonstances invariables et indépendantes de son travail. Néanmoins, on peut dire, dans un sens relatif, que l'ouvrier conserve toujours des valeurs anciennes à mesure qu'il ajoute une valeur nouvelle. Que le coton hausse ou baisse d'un shilling, sa valeur conservée dans le produit d'une heure ne sera jamais celle qui se trouve dans le produit de 2 heures. De même, si la productivité du travail du fileur varie, si elle augmente ou diminue, il filera en 1 heure, par exemple, plus ou moins de coton qu'auparavant, et par suite conservera dans le produit d'une heure la valeur de plus ou moins de coton. Mais dans n'importe quel cas, il conservera toujours en 2 heures de travail 2 fois plus de valeur qu'en une seule. Abstraction faite de sa représentation purement symbolique par des signes, la valeur n'existe que dans une chose utile, un objet. Ouvrez la parenthèse, l'homme lui-même, en tant que simple existence de force de travail, est un objet naturel, un objet vivant et conscient. Et le travail n'est que la manifestation externe, matérielle de cette force. Fermez la parenthèse. Si donc la valeur d'usage se perd, la valeur d'échange se perd également. Les moyens de production qui perdent leur valeur d'usage ne perdent pas en même temps leur valeur, parce que le procès de travail ne leur fait en réalité perdre la forme primitive d'utilité que pour leur donner dans le produit la forme d'une utilité nouvelle. Et, si important qu'il soit pour la valeur d'exister dans un objet utile quelconque, la métamorphose des marchandises nous a prouvé qu'il lui importe peu quel est cet objet. Il suit de là que le produit n'absorbe dans le cours du travail la valeur du moyen de production qu'au fur et à mesure que celui-ci, en perdant son utilité, perd aussi sa valeur. Il ne transmet au produit que la valeur qu'il perd comme moyen de production. Mais, sous ce rapport, les facteurs matériels du travail se comportent différemment. Le charbon avec lequel on chauffe la machine disparaît, sans laisser de traces. De même le suif, avec lequel on graisse l'axe de la roue, et ainsi de suite. Les couleurs et d'autres matières auxiliaires disparaissent également, mais se montrent dans les propriétés du produit dont la matière première forme la substance, mais après avoir changé de forme. Matières premières et matières auxiliaires perdent donc l'aspect qu'elles avaient en entrant comme valeur d'usage dans le procès de travail. Il en est tout autrement des instruments proprement dit. Un instrument quelconque, une machine, une fabrique, un vase, ne servent au travail que le temps pendant lequel ils conservent leur forme primitive. De même que, pendant leur vie, c'est-à-dire pendant le cours du travail, ils maintiennent leur forme propre vis-à-vis du produit, De même, ils la maintiennent encore après leur mort. Les cadavres de machines, d'instruments, d'ateliers, etc. continuent à exister indépendamment et séparément des produits qu'ils ont contribué à fabriquer. Si l'on considère la période entière pendant laquelle un instrument de travail fait son service, depuis le jour de son entrée dans l'atelier jusqu'au jour où il est mis au rebut, on voit que sa valeur d'usage pendant cette période a été consommée entièrement par le travail et que par suite, sa valeur s'est transmise tout entière au produit. Une machine à filer, par exemple, a-t-elle duré 10 ans? Pendant son fonctionnement de 10 ans, sa valeur totale s'est incorporée au produit de 10 ans. La période de vie d'un tel instrument comprend ainsi un plus ou moins grand nombre des mêmes opérations, sans cesse renouvelées avec son aide. Et il en est de l'instrument de travail comme de l'homme. Chaque homme meurt tous les jours de 24 heures. Mais il est impossible de savoir, au simple aspect d'un homme, de combien de jours il est déjà mort. Cela n'empêche pas cependant les compagnies d'assurance de tirer de la vie moyenne de l'homme des conclusions très sûres et, ce qui leur importe plus, très profitables. On sait de même par expérience combien de temps en moyenne dure un instrument de travail, par exemple une machine à tricoter. Si l'on admet que son utilité se maintient seulement 6 jours dans le travail mis en train, elle perd chaque jour en moyenne 1/6 de sa valeur d'usage et transmet par conséquent 1/6 de sa valeur d'échange au produit quotidien. On calcule de cette manière l'usure quotidienne de tous les instruments de travail et ce qu'ils transmettent par jour de leur propre valeur à celle du produit. On voit ici d'une manière frappante qu'un moyen de production ne transmet jamais au produit plus de valeur qu'il n'en perd lui-même par son dépérissement dans le cours du travail. S'il n'avait aucune valeur à perdre, c'est-à-dire s'il n'était pas lui-même un produit du travail humain, il ne pourrait transférer au produit aucune valeur. Il servirait à former des objets usuels sans servir à former des valeurs. C'est le cas qui se présente avec tous les moyens de production que fournit la nature, sans que l'homme y soit pour rien, avec la terre, l'eau, le vent, le fer dans la veine métallique, le bois dans la forêt primitive, et ainsi de suite. Nous rencontrons ici un autre phénomène intéressant. Supposons qu'une machine vaille, par exemple, 1000 livres sterling. Et qu'elle s'use en 1000 jours. Dans ce cas, 1/1000 de la valeur de la machine se transmet chaque jour à son produit journalier. Mais la machine, quoique avec une vitalité toujours décroissante, fonctionne toujours tout entière dans le procès de travail. Donc, quoiqu'un facteur de travail entre tout entier dans la production d'une valeur d'usage, il n'entre que par partie dans la formation de la valeur. La différence entre les deux procès se reflète ainsi dans les facteurs matériels, puisque dans la même opération, un seul et même moyen de production compte intégralement comme élément du premier procès et par fraction seulement comme élément du second. Inversement, un moyen de production peut entrer tout entier dans la formation de la valeur, quoique en partie seulement dans la production des valeurs d'usage. Supposons que dans l'opération du filage, sur 115 livres de coton, il y en ait 15 de perdus, c'est-à-dire qui forment, au lieu de filer, ce que les Anglais appellent la poussière du diable, devil's dust entre parenthèses. Si néanmoins ce déchet de 15% est normal et inévitable en moyenne dans la fabrication, la valeur des 15 livres de coton qui ne forment aucun élément des filets entre tout autant dans leur valeur que les 100 livres qui en forment la substance. Il faut que 15 livres de coton s'en aillent au diable pour qu'on puisse faire 10 livres de filets. C'est précisément parce que cette perte est une condition de la production que le coton perdu transmet au filet sa valeur. Et il en est de même pour tous les excréments du travail, autant bien entendu qu'ils ne servent plus à former de nouveaux moyens de production et conséquemment de nouvelles valeurs d'usage. Ainsi, on voit dans les grandes fabriques de Manchester des montagnes de rognures de fer enlevées par d'énormes machines comme des copeaux de bois par le rabot, passer le soir de la fabrique à la fonderie et revenir le lendemain de la fonderie à la fabrique en blocs de fer massifs. Les moyens de production ne transmettent de valeur aux nouveaux produits qu'autant qu'ils en perdent sous leurs anciennes formes d'utilité. Le maximum de valeur qu'ils peuvent perdre dans le cours du travail a pour limite la grandeur de valeur originaire qu'ils possédaient en entrant dans l'opération, ou le temps de travail que leur production a exigé. Les moyens de production ne peuvent donc jamais ajouter au produit plus de valeur qu'ils n'en possèdent eux-mêmes. Quelle que soit l'utilité d'une matière première, d'une machine, d'un moyen de production, s'il coûte 150 livres sterling, soit 500 journées de travail, il n'ajoute au produit total qu'il contribue à former jamais plus de 150 livres sterling. Sa valeur est déterminée non par le travail où il entre comme moyen de production, mais par celui d'où il sort comme produit. Il ne sert dans l'opération à laquelle on l'emploie que comme valeur d'usage, comme chose qui possède des propriétés utiles. Si, avant d'entrer dans cette opération, il n'avait possédé aucune valeur, il n'en donnerait aucune au produit. Pendant que le travail productif transforme les moyens de production en éléments formateurs d'un nouveau produit, leur valeur est sujette à une espèce de métempsycose. Elle va du corps consommé au corps nouvellement formé. Mais cette transmigration s'effectue à l'insu du travail réel. Le travailleur ne peut pas ajouter un nouveau travail, créer par conséquent une valeur nouvelle, sans conserver des valeurs anciennes, car il doit ajouter ce travail sous une forme utile, et cela ne peut avoir lieu sans qu'il transforme des produits en moyens de production d'un produit nouveau auquel il transmet par cela même leur valeur. La force de travail en activité, le travail vivant, a donc la propriété de conserver de la valeur en ajoutant de la valeur. C'est là un don naturel qui ne coûte rien aux travailleurs, mais qui rapporte beaucoup au capitaliste. Il lui doit la conservation de la valeur actuelle de son capital. Tant que les affaires vont bien, il est trop absorbé dans la fabrication de la plus-value pour distinguer ce don gratuit du travail. Des interruptions violentes, telles que les crises, le force brutalement à s'en apercevoir. Ce qui se consomme dans les moyens de production, c'est leur valeur d'usage, dont la consommation par le travail forme des produits. Pour ce qui est de leur valeur, en réalité, elle n'est pas consommée. Et ne peut pas, par conséquent, être reproduite. Elle est conservée, non en vertu d'une opération qu'elle subit dans le cours du travail, mais parce que l'objet dans lequel elle existe à l'origine ne disparaît que pour prendre une nouvelle forme utile. La valeur des moyens de production reparaît donc dans la valeur du produit. Mais elle n'est pas à proprement parler reproduite. Ce qui est produit, c'est la nouvelle valeur d'usage dans laquelle la valeur ancienne apparaît de nouveau. Il en est tout autrement du facteur subjectif de la production, c'est-à-dire de la force du travail en activité. Tandis que, par la forme que lui assigne son but, le travail conserve et transmet la valeur des moyens de production au produit, son mouvement crée à chaque instant une valeur additionnelle, une valeur nouvelle. Supposons que la production s'arrête au point où le travailleur n'a fourni que l'équivalent de la valeur journalière de sa propre force. Lorsqu'il a, par exemple, ajouté par un travail de 6 heures, une valeur de 3 shillings. Cette valeur forme l'excédent de la valeur du produit sur les éléments de cette valeur provenant des moyens de production. C'est la seule valeur originale qui est produite, la seule partie de la valeur du produit qui a été enfantée dans le procès de sa formation. Elle compense l'argent que le capitaliste avance pour l'achat de la force de travail et que le travailleur dépense ensuite en subsistance. Par rapport aux 3 shillings dépensés, la valeur nouvelle de 3 shillings apparaît comme une simple reproduction. Mais cette valeur est reproduite en réalité et non en apparence comme la valeur des moyens de production. Si une valeur est ici remplacée par une autre, c'est grâce à une nouvelle création. Nous savons déjà cependant que la durée du travail dépasse le point où un simple équivalent de la valeur de la force de travail serait reproduit et ajouté à l'objet travaillé. Au lieu de 6 heures qui suffiraient pour cela, l'opération dure 12 ou plus. La force de travail en action ne reproduit donc pas seulement sa propre valeur, mais elle produit encore de la valeur en plus. Cette plus-value forme l'excédent de la valeur du produit sur celle de ses facteurs consommés, c'est-à-dire des moyens de production et de la force de travail. En exposant les différents rôles que jouent dans la formation de la valeur du produit les divers facteurs du travail, nous avons caractérisé en fait les fonctions des divers éléments du capital dans la formation de la plus-value. L'excédent de la valeur du produit sur la valeur de ses éléments constitutifs est l'excédent du capital accru de sa plus-value sur le capital avancé. Moyens de production aussi bien que force de travail, ne sont que les diverses formes d'existence qu'a revêtue la valeur capitale, lorsqu'elle s'est transformée d'argent en facteur du procès du travail. Dans le cours de la production, la partie du capital qui se transforme en moyen de production, c'est-à-dire en matières premières, matières auxiliaires et instruments de travail, ne modifie donc pas la grandeur de sa valeur. C'est pourquoi nous le nommons partie constante du capital, ou, plus brièvement, capital constant. La partie du capital transformée en force de travail change, au contraire, de valeur dans le cours de la production. Elle reproduit son propre équivalent, et de plus un excédent, une plus-value qui peut elle-même varier et être plus ou moins grande. Cette partie du capital se transforme sans cesse de grandeur constante en grandeur variable. C'est pourquoi nous la nommons partie variable du capital ou, plus brièvement, capital variable. Les mêmes éléments du capital qui, au point de vue de la production des valeurs d'usage, se distinguent entre eux comme facteurs objectifs et subjectifs, comme moyens de production et forces de travail, se distinguent au point de vue de la formation de valeurs en capital constant et en capital variable. La notion de capital constant n'exclut en aucune manière un changement de valeur de ses parties constitutives. Supposons que la livre de coton coûte aujourd'hui un demi-shilling et que demain, par suite d'un déficit dans la récolte de coton, elle s'élève à un shilling. Le coton ancien, qui continue à être façonné, a été acheté au prix de un demi-shilling. Mais il ajoute maintenant au produit une valeur de 1 shilling. Et celui qui est déjà filé et qui circule même peut-être sur le marché sous forme de filet ajoute également au produit le double de sa valeur première. On voit cependant que ces changements sont indépendants de l'accroissement de valeur qu'obtient le coton par le filage même. Si le coton ancien n'était pas encore en train d'être travaillé, il pourrait être maintenant revendu à 1 shilling au lieu de 1 demi shilling. Moins il a subi de façon, plus ce résultat est certain. Aussi, lorsque surviennent de semblables révolutions dans la valeur, est-ce une loi de la spéculation d'agioter sur la matière première dans sa forme la moins modifiée par le travail, sur les filets plutôt que sur le tissu, et sur le coton plutôt que sur les filets. Le changement de valeur prend ici naissance dans le procès qui produit le coton, et non dans celui où le coton fonctionne comme moyen de production, et par suite comme capital constant. La valeur, il est vrai, se mesure par le quantum de travail fixé dans une marchandise. Mais ce quantum lui-même est déterminé socialement. Si le temps de travail social qu'exige la production d'un article subit des variations, et le même quantum de coton, par exemple, représente un quantum plus considérable de travail lorsque la récolte est mauvaise que lorsqu'elle est bonne, alors la marchandise ancienne, qui ne compte jamais que comme échantillon de son espèce, s'en ressent immédiatement, parce que sa valeur est toujours mesurée par le travail socialement nécessaire, ce qui veut dire par le travail nécessaire dans les conditions actuelles de la société. Comme la valeur des matières, la valeur des instruments de travail déjà employés dans la production, machines, constructions, etc., peut changer, et par cela même, la portion de valeur qu'ils transmettent au produit. Si, par exemple, à la suite d'une invention nouvelle, telle machine peut être reproduite avec une moindre dépense de travail, la machine ancienne de même espèce perd plus ou moins de sa valeur, et on donne par conséquent, proportionnellement, moins au produit. Mais dans ce cas, comme dans le précédent, le changement de valeur prend naissance en dehors du procès de production où la machine fonctionne comme instrument. Dans ce procès, elle ne transfère jamais plus de valeur qu'elle n'en possède elle-même. De même qu'un changement dans la valeur des moyens de production, malgré la réaction qu'il opère sur eux, même après leur entrée dans le procès de travail, ne modifie en rien leur caractère de capital constant. De même, un changement survenu dans la proportion entre le capital constant et le capital variable n'affecte en rien leur différence fonctionnelle. Admettons que les conditions techniques du travail soient transformées de telle sorte que, là où, par exemple, 10 ouvriers avec 10 instruments de petite valeur façonnaient une masse proportionnellement faible de matières premières, un ouvrier façonne maintenant, avec une machine coûteuse, une masse 100 fois plus grande. Dans ce cas, le capital constant, c'est-à-dire la valeur des moyens de production employés, serait considérablement accrue. Et la partie du capital convertie en force de travail, considérablement diminuée. Ce changement ne fait que modifier le rapport de grandeur entre le capital constant et le capital variable, ou la proportion suivant laquelle le capital total se décompose en éléments constants et variables, mais n'affecte pas leurs différences fonctionnelles.